Bonjour, nous sommes au Pacifique, Centre de développement chorégraphique national de Grenoble, où nous enregistrons cette émission avec l'aide de Radio Campus. Sont présents Jérémy Damian, Myriam Levkovitch, Catalina Insignares, qui sont actuellement à Grenoble pour un projet résidence qui s'appelle la Facultad. Et nous avons aussi avec nous les participants d'un projet de Rémi Héritier qui s'intitule « Une danse ancienne ».
Ce qui suit est une pièce radiophonique, un portrait radiophonique de la philosophe Vinciane Després. En février 2019, je me suis rendu à Liège pour la rencontrer. Et ce qui suit se passe dans son salon, au pied d'une grande cheminée normande. Et on discute ensemble de sa pratique de la philosophie. Et assez vite, vous allez voir, c'est le début de la pièce, elle fait référence à son activité de philosophe comme une activité qui ferait des gestes. Et elle décrit cette pratique en disant ça. Il ne restera rien de ma pensée, pardon. Je ne laisse pas de penser. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas par la pensée que j'ai opéré. Ce que j'ai fait et profondément aimé faire, c'est faire des gestes pour amener certaines choses à sortir. Et la pièce, elle se construit autour de trois temps qui sont, de manière explicite ou implicite, trois gestes qui se sont élaborés et qui constituent trois moments de son parcours de philosophe. Étymologiquement, geste vient d'un verbe latin, guérire, j'aime bien la proposition que fait Georges Didier Huberman qui propose une définition de ce verbe latin. Il dit « guérir, ce serait accomplir très réellement quelque chose ». Alors, on va faire comme si le « très réellement » ne posait pas un peu problème ici, et quand même prendre cette définition-là malgré tout, « accomplir très réellement quelque chose ». Ce qui donne quelque chose comme faire un geste ou gester, ce serait le contraire de gesticuler, c'est-à-dire de s'agiter ou de s'affairer pour rien, avec le pari associé qui serait que le geste accompli, qu'il opère à la fois dans et sur le réel. Et je crois que c'est en ce sens que Vinciane Després choisit de parler de son travail comme d'une fabrique de gestes, plutôt que de parler de la philosophie comme une forme d'élaboration conceptuelle, ce qui la renvoie du côté d'une pratique, d'un artisanat, peut-être aussi en partie parfois d'une performance, où philosopher relève d'une activité finalement très concrète, d'une prise de participation au milieu et aux situations qu'elle étudie, et qui va expérimenter des manières d'opérer dans le réel et de sculpter des réalités, et du coup de contribuer à faire advenir ces réalités sur un mode possible et pourtant au départ qui était assez peu probable. Si on suit ce programme, la philosophie devient, aux côtés d'autres, un site d'intensification des transformations.
Rien de ma pensée. Et pourquoi ? Parce que c'est pas par la pensée que j'ai opéré. Je veux dire, on cite des extraits de textes, etc. Et pas si souvent que ça. En général, c'est plutôt des espèces de mots d'ordre. Pourquoi ? Parce que je laisse pas de penser. Et c'est aussi bien. Et en fait, moi, ce que j'ai fait et que je crois que j'ai profondément aimé faire, c'est faire des gestes pour amener à certaines choses à sortir. Il y aura rien, je ne laisserai pas de traces, etc. Mais je laisserai des traces de gestes. J'aurai appris des gestes à des gens, c'est peut-être ça que je dois transmettre. Et donc, par exemple, ce que je dis, vous pouvez reprendre toutes mes recherches, il y a chaque fois une invention d'un geste particulier qui est peut-être soit inventé, soit obligé. À un moment donné, je me dis, mais ça ne va pas, on ne peut pas continuer, je ne peux pas continuer à faire comme ça, ce n'est pas possible. Et puis, il y a un geste qui émerge. Et ce geste, il est posé. Et il va pour cette recherche-là, mais il ne va pas pour d'autres recherches. Donc, à chaque recherche, j'ai été obligée de trouver le bon geste. Et donc, la plupart des gestes, c'est à la fois un ensemble d'opportunités, d'occasions ratées et à ne pas vouloir rater. Mais ils sont tous réfléchis, mais ils sont tous aussi... ils ne sont pas tous autant réfléchis. La plupart sont réfléchis parce que je me trouve confrontée à une difficulté et qu'il faut que je fasse quelque chose avec cette difficulté. Il y a plein de chercheurs qui s'y confronteraient et qui se diraient, tant pis, je continue, je suis courageux, je fais front, je serre les dents. Et c'est là, au moins, peut-être que ma tolérance à l'ennui et au malaise est très faible, en tout cas dans ces domaines-là, qui fait qu'à un moment donné, je dis, moi je ne continue pas, je ne peux pas continuer avec ça, ou bien je ne fais pas ça, ou bien ça ne sert à rien, ou bien on s'emmerde. Et par exemple, le geste donc avec les éleveurs, c'était très simple. C'est Jocelyne qui me dit, il y a une enquête que j'ai envie de faire, mais elle me paraît impossible, parce que je me rends compte que quand je pose la question aux éleveurs, ils ne veulent pas y répondre, alors que j'entends que la réponse, ils pourraient me la donner. Et cette question était, est-ce que vous pensez que les animaux travaillent collaborativement au travail avec vous ? Et quand elle posait cette question comme ça aussi platement, elle entendait répondre systématiquement, non, les animaux, ils ne travaillent pas, c'est les humains qui travaillent. Donc, et elle dit, mais pourtant, moi, j'entends tout le temps des anecdotes qui disent le contraire, où ils sont capables de me raconter des trucs où les animaux prennent une part active, ont des initiatives, collaborent, etc. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Me dit-elle. Et c'est à partir de cette difficulté que j'ai réfléchi, et puis qu'à un moment donné, je me suis dit, mais Jocelyne, tout compte fait, c'est simple, puisque c'est difficile et qu'ils ne veulent pas répondre, on va leur demander de nous aider. Demandons-leur un coup de main et essayons de voir quelle est la formule qui pourrait les mettre en appétit. Voilà, qui pourrait leur donner envie de nous aider. Et c'est ainsi qu'on a inventé, je lui ai proposé cette formulation, je lui ai dit, on va se présenter chez les gens et on va leur dire, vous qui êtes éleveur, c'était important ça, vous qui êtes éleveur, comment est-ce que vous pensez qu'on doit apprendre à poser notre question pour qu'elle ait un sens pour les éleveurs, pour qu'on puisse entendre et qu'on puisse élaborer là-dessus. Ils pouvaient nous dire très clairement, mais ils ont raison mes collègues, votre question, ça ne se pose pas comme ça, etc. Et c'est ce qu'on a entendu, en effet ça ne se pose pas comme ça. Il faut apprendre à la poser, et ils nous ont vraiment aidé à la poser. Mais en plus, tu entendais des choses assez extraordinaires, des gens qui parlaient et puis qui disaient, marrant, tu comptes ce que je viens de dire là, parce qu'en fait, vous avez dit le contraire en début d'entretien. Je crois que j'ai changé d'avis. En fait, je crois maintenant que vous m'y faites penser, c'est vrai que... Et ça, pour moi, c'est la réussite du geste. C'est que les gens se contredisent et se contredisent de manière explicite parce qu'ils sont mis au travail de la pensée et que le travail de la pensée demande en effet qu'on change d'avis et qu'on bifurque. Et que le fait d'élaborer, à un moment donné, on arrive ailleurs que ce qu'on avait imaginé. Enfin, on a quitté le point de départ et on ne sait plus y retourner. Et ça, c'est fabuleux. Donc, les gestes, il est fait aussi par les gens. C'est ça que j'essayais de t'expliquer tout à l'heure en te disant, tu as donné ce que tu appelles justement une induction, peut-être même une petite inflexion, juste pour faire, quand on dit bifurcation, tu fais juste, t'es sur un autre chemin. Tu te mets explorer, puis tu vois que la personne qui est en face de toi, elle a plein de trucs sur ce chemin-là, et tu te dis, tiens, mais c'est lui qui est en train de faire le geste. Il a accepté ce petit écart, et c'est là le risque, c'est comment faire un écart qui ne soit pas le grand écart, ou un dérapage totalement incontrôlé. Donc, qu'est-ce que ce geste fait ? Qu'est-ce qu'il a permis ? Parce que là, on va apprendre, en effet, comment opérer des gestes, c'est-à-dire une fois qu'on s'intéresse aux conséquences de ce geste-là, la prochaine fois qu'on posera un geste qui ne sera plus le même, on sait déjà commencer à penser, tiens, mais vers quel type de conséquences ce geste va pointer ? Qu'est-ce qu'il doit susciter ? on était encore dans la guerre en ex-Yougoslavie, mais là où le programme surtout était ancré, c'était dans la région de Split. Et donc il y avait des camps avec énormément de réfugiés, et donc ils avaient proposé un programme thérapeutique orienté vers les familles. Et j'avais lu les travaux d'Antoinette Chauvenet, et j'avais trouvé que c'était intéressant de lui demander de venir. Donc je suis allée la voir à Paris. On a parlé de choses et d'autres, on a parlé des recherches qu'on avait faites, etc. Et ça s'est très bien passé. Et puis, elle m'a dit à un moment donné, je ne sais pas très bien ce que je veux faire maintenant, je viens d'arrêter tel terrain, et je ne sais pas très bien sur quoi j'ai tombé. Je dis, mais ça tombe bien, j'ai une proposition. Et elle a dit oui tout de suite. Et donc j'ai appris avec elle, elle m'a fait tout un, pendant plusieurs semaines, je suis allée avec elle voir les gens, et j'écoutais comment elle posait les questions. Et là, j'ai appris un de mes premiers gestes, en fait. Dans les camps de réfugiés, il y a eu deux gestes qui ont été très importants pour l'avenir. Qui ont vraiment, alors, pourquoi est-ce qu'ils ont été importants pour l'avenir? C'est assez intéressant. Ils n'ont jamais été répétés. Si, oui, il y en a un qui a été répété. Ça, c'est un geste qui s'est... Là, pour le coup, il y a un geste qui est resté ancré, qui pouvait être délocalisé. C'est le geste de ne plus accepter l'anonymat. Et donc ça s'est passé dans le camp de réfugiés. À un moment donné, je discutais avec un monsieur, un musulman de Bosnie, qui était un paysan, et qui a commencé à me raconter. Je lui posais la question, est-ce que vous pensez qu'une paix sera un jour possible? Est-ce que vous pensez qu'une réconciliation, pardon, sera un jour possible? Et il s'est mis à élaborer une réponse extrêmement intéressante. Et nous, la question de la réconciliation, c'est Antoinette qui avait suggéré qu'on la pose en disant si on veut faire donner une idée de savoir si les gens sont capables de se projeter dans l'avenir, qui était quand même quelque chose d'important, posons cette question-là. Plutôt, non, pas poser aux gens, êtes-vous capables de vous projeter dans l'avenir, parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Hein. Par contre, poser la question qui est quand même une question à la fois qui permet aux gens de... Et je trouvais que c'était génial comme question. Ça permet aux gens de penser politique, et en même temps... de dire jusqu'où l'avenir peut aller, quelles sont les possibilités d'avenir, en plus un avenir qui n'est pas un avenir trop intime ou trop personnel. Et donc je lui pose cette question-là comme c'était prévu, et il se met à élaborer une réponse en parlant d'abord du fait que ils avaient tué les enfants des autres, et les autres avaient tué leurs propres enfants, et que donc ça, c'est quelque chose avec lequel il va falloir travailler, etc. Et puis il se met à expliquer que finalement toute cette histoire, et que... Donc, c'était en faveur plutôt de la paix, que ce qu'il leur fallait réaliser, c'est que, en fait, il prend mon stylo et se met, et il dit, vous savez, nous avons été des stylos de cette histoire. Nous avons été ceux avec qui on a écrit l'histoire. Et puis, on fait comme ça, et puis le mec continue à élaborer, plus avec une langue, comme souvent les musulmans de Bosnie, très chargée de métaphores, donc très belle, très riche, très poétique comme langue. Et à un moment donné, je me dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je suis en train de fabriquer ici, moi? Le type est en train de me dire des choses d'une intelligence incroyable que j'ai lues nulle part. Et je vais dire, un réfugié m'a dit, alors que tout ce que j'ai lu, etc., je vais citer les auteurs, alors que ça arrive pas à la cheville de ce bonhomme. C'est scandaleux. Ce que je suis en train de faire est scandaleux. Et j'étais emmerdée. Puis à un moment donné, je regarde le bonhomme, je dis, écoutez, moi j'ai vraiment un problème ici. On vous dit que c'est anonyme, etc. Mais en fait, ça va pas du tout, c'est anonyme. C'est pas possible, quoi. Je peux pas faire ça. Ce que vous dites, c'est tellement intéressant. Je peux pas dire en réfugié m'a dit, quoi. Je sais pas ce que je peux faire. Je vous ai dit que vous seriez anonyme, mais je vois pas l'utilité. Pourquoi est-ce que vous seriez anonyme, en fait? De quoi est-ce que je dois vous protéger? C'est vrai, de quoi est-ce qu'on peut encore protéger les gens quand le pire est arrivé? Et il avait quelque chose de très beau. Il m'a pris mon cahier, je m'étais dans un cahier, il a pris mon stylo et puis il a signé. Et c'était Jaïche Shmaïche, c'était son nom. On n'oublie pas un nom pareil. Hein. Et puis après, on s'est mis à discuter et on a discuté que l'anonymat était vraiment problématique, en fait, sans que je m'en rende compte. Parce que le gros problème des gens que j'entendais, mais je ne faisais pas le lien avec la situation dans laquelle j'étais, était que l'identité de réfugié ne le définissait pas. Il disait, on n'est pas des réfugiés. C'est pas notre identité. Moi, je suis monsieur un tel, j'avais une ferme, j'avais 5 vaches, j'avais 10 vaches, j'avais des voisins, j'étais respecté dans le village, etc. Ça, c'est une identité. Mais être réfugié, d'abord, on ne l'a pas voulu. Et en plus, qu'est-ce que ça veut dire? On ne se reconnaît pas, si ce n'est personne de l'autre versant du monde. C'est ce qu'il me disait. Et donc, en fait, l'anonymat, mais ce que je faisais, c'est dire, mais, un réfugié m'a dit, mais c'était encore... C'est pas un témoin m'a dit parce que je vais interroger un kidam, ce qui est déjà pour moi un scandale maintenant. Hein, d'aller interroger des gens dans la rue sur n'importe quoi, c'est-à-dire les mettre dans la posture la plus vulnérable qui soit, de les interroger sur ce qui ne les intéresse pas, ne pas leur demander ce qui les intéresse, etc. Sur un sujet où moi, évidemment, je suis compétente puisque je suis chercheur, enfin, prétendument, quoi. Je prétends l'être, ou en tout cas, j'ai pu me renseigner un peu, enfin, bref. Donc déjà, ce scandale-là est scandaleux, mais là, c'était en plus toxique. Non seulement scandaleux, mais toxique. Ça fait des effets. Et donc, après ça, j'ai dit, moi, l'anonymat, je ne peux plus. Je ne peux plus, c'est fini. C'est une pratique qui doit se renégocier au cas par cas. Et donc, j'ai décidé que l'anonymat, non seulement était un problème qui devait être sérieusement réfléchi, mais que c'était quelque chose qui instaurait des rapports de pouvoir d'une violence extrême et qui affaiblissait terriblement la possibilité de penser chez les gens. Le geste même d'anonymiser les gens et qu'ils le sachent, c'est quelque chose qui affaiblit le pouvoir de penser, puisque ça veut dire que ce que vous direz, ça va être une opinion parmi d'autres. Alors je dis aujourd'hui que ce que j'affirme ici n'est pas totalement innocent et que c'est pas sans contradiction et sans problème. Je suis aussi en train de valoriser l'individualisme, mais sauf que je suis dans une position située, donc je suis pas en train de faire de l'individu un sujet roi qui a droit à l'autonomie de sa pensée, à la reconnaissance de son identité, de son individualité, etc. Je suis dans une position située, c'est-à-dire je sais ce que l'effet de l'anonymat fait sur les gens, donc je ne suis pas en train de plaider en faveur de l'individualisme, je suis en train de lutter contre une violence qui rend la situation inintéressante et qui la rend inintéressante parce qu'on met les gens dans les positions de dire des choses qui ne sont pas ni pensées ni réfléchies, ou on les oblige pas à penser, ou en tout cas on ne les met pas en appétit de penser. Et donc ce geste-là, je l'ai délocalisé et systématisé, mais toujours sur le mode de la négociation. Et tu verras que le livre sur les éleveurs, le livre Être bête, on a gardé tous les noms des éleveurs. Ils sont cités chaque fois que quelqu'un dit quelque chose. Et Bruno Latour avait d'ailleurs dit en lisant que c'était tellement surprenant, dit-il, parce qu'on voit d'habitude citer les grands auteurs, et il dit, toi, t'as totalement brouillé le jeu, parce qu'on ne sait plus qui est grand auteur et qui est témoin, et qui est ce qu'on appelle participant aujourd'hui, mais je ne suis pas sûre que t'en sois vraiment. J'ai moi-même été très surprise de l'effet des gestes. Je vais dire de tous les gestes. Ça c'était chaque fois la surprise de me dire purée, j'attendais pas autant. Et souvent j'attendais pas autant parce que je savais plus ou moins pourquoi je faisais le geste. C'était une tentative. Je voyais plus ou moins ce que j'essayais de mettre en place, plutôt ce que j'essayais d'éviter. Mais je me rendais pas compte que la façon dont les gens s'en saisiraient allait en faire quelque chose d'aussi intéressant. Dans un de mes textes que je n'ai jamais publié, heureusement, j'ai scientifique, hein, j'ai inventé deux auteurs. Et, parce que j'en avais besoin, quoi. Être toute seule pour écrire ce bazar me semblait vraiment insuffisant. Et donc j'ai inventé deux auteurs, mais avec des codes très précis pour pouvoir comprendre que c'était des auteurs inventés. Je veux dire, si on était un lecteur attentif, on pouvait le voir. Donc j'ai inventé, c'était un texte sur les émotions. Donc le premier auteur inventé, c'est un psychologue américain qui aurait publié jusqu'en 83, parce que avec la naissance d'Internet, je l'ai fait disparaître. et qui s'appelait, on n'avait que les initiales, Ebe Trovato. Et sans doute, c'était Eben, sans doute, hein, ça devait être un psychologue américain, peut-être un afro-américain, hein, Eben Trovato, mais c'était Ebe Trovato qui le signait. Et il était devenu spécialiste parce que sa biographie s'est chargée pendant toute l'écriture de la thèse. Et en cours de route, il s'est avéré qu'il est devenu spécialiste comme psychologue d'autres auteurs inventés qui dataient du XVIe siècle et qui s'appelait Simone Vero. Mais Ebe Trovato était toujours dans le texte et Simone Vero toujours en note de bas de page, puisque Simone Vero n'a jamais eu le droit, enfin n'avait pas le droit dans mon texte de s'exprimer personnellement. Il était toujours convoqué par Ebe Trovato par des référents. Donc Ebe Trovato affirmait des choses et il disait une phrase et puis il y avait une petite note de bas de page et puis Simone Vero et la naissance de l'ethnocentrisme européen signé par Ebe Trovato. Donc on ne citait même pas des articles de Simone Vero. Mais le jeu de mots étant le suivant, c'est Simone Vero et Ebe Trovato. Si vous les mettez ensemble, ça fait Sinone Vero et Bene Trovato. Et si ce n'est pas vrai, c'est quand même bien trouvé. Donc voilà, donc c'était simplement ça. Et pourquoi j'ai eu besoin de faire ça? Ça s'est imposé ponctuellement, et puis je l'ai gardé parce que j'aurais pu le supprimer. Je l'ai gardé parce que j'avais vraiment besoin de faire un écart par rapport à ce travail si sérieux qu'est une thèse. J'avais besoin de mettre un petit peu d'humour là-dedans, et je pense que j'avais besoin de prendre un petit peu un risque par rapport à la docilité que me demandait d'accepter de faire une thèse. Bon, qui n'était pas si docile que ça, il ne faut pas exagérer, mais enfin, quand même, c'était un espèce de « bon, mais quand même, je tire la langue, quoi ». Ça mange pas de pain, c'est pas activiste, c'est politiquement pas grandiose. C'était juste m'amuser, j'en avais besoin. Donc voilà, et je crois qu'il ne faut jamais se refuser de temps en temps. Mais c'était très risqué. Celui qui m'en voulait l'aurait remarqué. Je pense que j'avais peut-être pas ma thèse, parce que ça, normalement, c'est impardonnable. Alors, je pouvais m'en tirer par un mensonge, j'avais quand même prévu un petit peu le coup. C'est de dire, Ebe Trovato, j'en trouve plus de traces. Il parle d'un certain Simone Vero et le rend coupable de la naissance de l'ethnocentrisme. Moi, j'ai jamais trouvé de traces, mais... peut-être que Ebe Trovato a inventé un auteur, mais moi, c'est pas ça qui m'intéressait, c'est je trouvais que ce qu'il faisait, ce qu'il avait comme proposition, n'était pas inintéressant, parce que très révélateur du constructivisme de cette époque. Donc voilà mon moyen de défense. Et personne ne pouvait prouver qu'Ebe Trovato n'avait jamais existé, parce qu'il aurait fallu faire des recherches inimaginables, puisqu'il n'était pas repris sur Internet. Donc maintenant, on pourrait montrer qu'il n'existe pas. Et sa disparition mystérieuse en 83, on pensait qu'il avait peut-être fait des choses qui n'étaient pas convenables dans une université américaine. Donc je laissais ça. Donc il y avait quand même sa biographie se chargeait au fur et à mesure. Alors bon, j'ai eu besoin parce que j'avais besoin de cette espèce de petit pied de nez un peu ridicule, c'est très immature et tout. Mais moi, les modes de survie, je crachais pas dessus. Moi, en fait, j'avais pas beaucoup d'humour avant, mais je faisais beaucoup rire. Et en fait, j'avais pas d'humour, je pensais pas avoir de l'humour. Je saisissais très vite la drôlerie de situations que personne ne voyait comme drôle, ça oui. Mais je ne le partageais pas parce que je me rendais bien compte qu'il y avait une espèce d'anomalie de la perception qui faisait que moi, je voyais ça drôle, alors qu'en fait, c'était pas drôle. Donc, en général, quand les autres ne voient pas la même chose que vous, si vous êtes une jeune petite fille docile, qui a pas envie de... Moi, j'avais tellement envie d'avoir l'air normal que donc, j'insistais pas. Je gardais ça pour moi. Et donc, c'est à force de faire rire les autres avec des remarques désopilantes, des trucs très naïfs, etc., que j'ai pris le parti de ne plus essayer de contrôler ça. Mais donc voilà, c'est une espèce de façon d'être téléguidée par quelqu'un qui, en moi, est mal dégrossi. Et toujours un tout petit peu à côté de la compréhension, parce que ça, c'est un point fondamental, quelque chose qui a été quelque chose avec lequel moi j'ai dû vivre, c'est de ne pas bien comprendre, de ne pas toujours comprendre la même chose que les autres et de ne pas comprendre pourquoi. Et donc tout ça participe, je vais dire, de la capacité de faire de l'humour. Je n'ai jamais voulu être décalée. Par contre, j'ai toujours été à la recherche des situations qui étaient pleines d'humour. Donc de les capter, de les voir, deux oiseaux qui se battent dans le ciel. Moi, je ris, quoi. Parce que parfois, c'est drôle, parce que parfois, c'est clownesque. Pas toujours, parfois, c'est dramatique, mais... Et Hébé Trovato, en fait, est arrivé parce que j'avais besoin de lui. Parce que, par moments, j'écrivais des trucs qui tenaient vraiment bien la route, qui étaient vraiment... Je trouvais que c'était vraiment intéressant. Et quand j'arrivais au bout du raisonnement, ou quand Isabelle, parce qu'elle relisait certaines de mes pages, j'arrivais au bout du raisonnement, elle me disait, oui, mais attends, ici, ça a d'autres conséquences et ça pose problème. Et je me disais, elle a raison. Alors, est-ce que j'efface tout? Ou bien, est-ce que ça vaut la peine qu'on suive mon chemin? Je me suis dit, j'ai pas envie de faire un truc réflexif, etc. Chaque fois que ça m'arrive, c'est Hébé Trovato qui va le prendre en charge. Et donc, je prenais Hébé Trovato très au sérieux. Je disais, voilà ce qu'il propose. Et je développais pleinement le raisonnement en disant, et on a envie de se laisser tenter. Donc, je décrivais ce qui m'arrivait. On a envie de se laisser tenter, mais il y a quand même un problème. Et puis, alors, après, je pouvais déployer en disant, voilà pourquoi ça va pas. Alors, Hébé Trovato devrait se trouver quand même un peu à part, parce que là, c'est une fiction qui était quand même un peu mensongère. Et d'ailleurs, quand j'ai publié ma thèse dans un livre, je l'ai supprimée. Hébé Trovato a disparu, parce que je pensais que faire le coup à des gens qui sont payés pour m'évaluer et prendre le risque de l'échec à cause de ça, bien que si je l'avais pleinement mesuré, je ne l'aurais probablement pas fait. Hein, je ne suis pas aussi courageuse que ça. C'est une bonne part d'inconscience dans ce que j'ai fait. Mais là, pas question qu'un lecteur se dise, mais moi, Hébé Trovato, j'aime bien, je trouve que c'est sympa ce qu'il fait, et puis c'est intéressant, et puis elle lui fait peut-être un mauvais sort, moi je vais aller relire Hébé Trovato. On ne peut pas faire ça aux gens. Et donc Hébé Trovato et Simone Veyron étaient complètement effacés de ça, et j'ai repris, parce que c'était en livre, je pouvais reprendre, si j'en avais besoin et si je pensais que c'était utile, je pouvais reprendre la forme narrative du jeu qui dit, moi je me laisse tenter par des trucs comme ça, mais regardez, voilà où ça mène, quoi. Et donc, il faut être, on est tout le temps obligé d'être vigilant, d'être aux aguets. Donc je mettrai Hébé Trovato non pas sur le même mode que la fabulation, c'est plutôt une créature fictionnelle utile pour la dramatisation. Utile mais pas nécessaire. Voilà, c'était utile pour arriver à finir cette thèse, mais qui n'était pas nécessaire et qui d'ailleurs dont la disparition n'a absolument eu aucun effet. Ce qui est mauvais signe sur l'utilité des personnages. En revanche, la fabulation, oui, c'est important, mais la fabulation, c'est pour ça que je fais le contraste avec Hébé Trovato. Hébé Trovato, c'est un écart par rapport à la réalité. C'est un mensonge. Faire croire que quelqu'un existe dans un texte où on ne peut pas mentir, parce que c'est bien quelque chose qu'on nous a appris. Je veux dire, il y a des genres. Si vous écrivez un livre sur les émotions où vous répercutez les scientifiques, vous n'en inventez pas. Ou bien alors vous dites que c'est une fiction. Par contre, la fabulation n'est pas, il y a pas de mensonge dans la fabulation. Il y a pas, s'il y a écart par rapport au réel tel qu'il est, c'est parce qu'il y a d'autres réels qui sont possibles. Par exemple, rétrospectivement fabuler un passé, c'est pas mentir ou prendre un écart par rapport au réel tel qu'il est, c'est prendre un écart par rapport au réel tel qu'il a été raconté jusqu'à présent. Puisque c'est par rapport à une narration qu'on fait un écart. Et donc, si une narration a imposé, par exemple, l'idée que les choses se sont que les causalités se sont enchaînées de tel type et de tel type et de tel type, on sait bien que les causalités, les causes, c'est toujours postérieur aux conséquences. et que donc ce sont toujours des reconstructions dont on espère qu'elles sont les plus vraies possibles, mais en sachant, et donc refabriquer une construction autre a posteriori pour rejouer les dés de ce qui s'est passé dans le passé, la fabulation n'est pas écart par rapport, n'est pas plus écart par rapport au réel que la manière dont vous pensez que ça s'est passé. Le fait de fabuler explicitement sur un mode spéculatif, c'est au contraire de se reposer la question, de rejouer l'histoire telle qu'elle a été racontée en se posant la question, et si on la raconte autrement, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça produit comme effet? Qu'est-ce que ça ouvre comme possibilité dans l'avenir? Comment ça m'oblige à regarder ce qui se passe maintenant? Etc, etc. La fabulation, c'est rendre perceptibles des choses qui étaient restées inaperçues.
Alors, on est de retour au plateau nord, au studio nord du Pacifique CDC. Je compte six tables sur lesquelles il y a à chaque fois un micro, un casque. Mais on n'est que quatre pour ces six tables. Donc, je rappelle Camari Roche, Catalina Zignares et Myriam Levkovitz. Et ça me permet de reprendre la parole en nommant aussi peut-être les deux absents du jour, qui sont ces deux tables laissées vides, qui sont laissées vides peut-être aussi à destination des participantes du projet de Rémy Héritier, Une danse ancienne. Donc si à un moment ou à un autre, vous voulez intervenir, vous êtes les bienvenus. Mais donc ces deux absents, ce sont Julien Vadet, avec qui on a réalisé la pièce, et puis Rémy Héritier. Et Rémy devait être là, et pour des histoires de Covid, il n'est pas là. Et j'espère que ce sera une partie remise, parce que je crois qu'une des choses qu'on aurait pu se raconter ensemble, et à partir de son projet, on pense souvent le geste comme... On réfère le geste à un agent humain, souvent d'ailleurs. Et là, tout à coup, je me disais qu'il y avait aussi une opportunité de discuter d'un geste qui aurait débrayé de cette agence humaine, mais qui se penserait à l'échelle de quelque chose de plus large, pourquoi pas d'une ville, pourquoi pas d'un quartier, en tout cas pourquoi pas d'un collectif, mais en tout cas d'une entité qui ne serait pas forcément humaine et qui aurait des contours un peu plus étranges, quoi. Mais ce sera pour une autre discussion. Pour lancer la discussion ensemble à partir du travail que vous menez, alors pas ici au Pacifique, c'est le Pacifique qui vous invite, mais si on veut assister à ce que vous faites, il faut se rendre aux 3 places André Charpin, c'est ça? Je me suis livré à ce petit jeu ce matin, et donc rendez-vous 3 places André Charpin, on est invité au premier étage, on rentre dans un appartement. Dans cet appartement, il y avait un jeune homme, Roberto, qui vous accompagne. Catalina, tu m'as accueilli. Toi, Myriam, tu étais pendant ce temps-là partie dans le quartier faire une marche avec Adama, qui était un autre participant. Et on attendait une dernière participante, Stella, qui allait arriver. Et alors, il y a eu comme un premier geste, qui est un geste qui était très simple, mais qui vaut d'être rappelé, qui était un geste d'accueil. L'accueil chaleureux, le regard, la parole, prendre un thé, etc. Et puis de là, si je continue à parler, mais ce n'est pas tellement le but, je pourrais décliner un ensemble de gestes qui se sont succédés. Et peut-être que c'est de ça dont on pourrait parler. J'aurais envie qu'on parle de votre travail, de cette proposition que vous menez à la Facultad, à partir peut-être aussi éventuellement de l'écoute qu'on vient d'avoir, sans forcément trop forcer le trait, parce qu'il ne s'agit pas de réagir à chaud, ce serait un sale coup à vous faire, mais si cette écoute peut nourrir ou peut croiser ou rencontrer quelque chose qui vous intéresse ou qui est chaud dans ce travail-là, alors ce serait intéressant. En tout cas, l'idée de faire suivre cette discussion, c'était bien de vous interroger sur, puisque Vinciane nous parle de ses gestes, de son artisanat, de la pensée, de ses gestes de philosophe, et que vous êtes des artistes chorégraphiques. Alors on attend des danseurs et des danseuses qui fassent des gestes, bien évidemment, mais on comprend bien en arrivant dans cet appartement que le type de gestes que vous proposez, ce n'est pas ceux qu'on attend d'une danseuse sur un plateau. Donc voilà un peu le programme qui pourrait être le nôtre. Et si on allait ailleurs, alors ce serait tout aussi bien. mais alors du coup, ma question, peut-être pour lancer, elle serait peut-être d'abord nous présenter un tout petit peu la facultade pour les auditeurs de Radio Campus 90.8. Vous qui nous écoutez dans votre salon, ou en tout cas nous qui sommes dans vos oreilles actuellement. Et puis ensuite, peut-être... peut-être qu'on pourrait faire quelque chose dans ce programme, je rajoute une dimension, ce serait essayer de décrire un peu le geste qui est au départ de ce projet-là et de déployer un peu son écologie, le paysage de ce geste, d'où il vient, qu'est-ce qu'il motive, et par écologie aussi j'entends quelque chose, peut-être sa dimension collective.
Ça fait beaucoup de questions en même temps. On essaye.
Oui, on essaye de partir par quel serait ce geste.
Ouais.
Parce que je pense que on s'est retrouvé justement après l'accueil, après les gestes de l'accueil et l'été dont tu parlais. On s'est retrouvé à expliquer un geste que je pense qui est aussi celui à la base de ce qui nous motive, qui était ces gestes des liens entre des choses qui sont lointaines. Et on passe notre temps, là je mets mes mains à côté de moi, et on passe notre temps à expliquer ça, que la faculté aurait l'intention de rapprocher des choses qui normalement sont supposées d'être éloignées.
Ouais, éloignées dans l'espace, mais aussi peut-être dans le temps. Aussi peut-être dans les modes. On cite toujours maintenant cet exemple d'une personne qui est venue à la facultad et qui nous raconte qu'on lui a dit quelque chose dans un rêve et qu'un mois plus tard, il rencontre quelqu'un qui lui dit précisément ce qu'il a entendu dans le rêve, sauf que là, il est éveillé. Donc c'est aussi peut-être des états qui seraient a priori considérés comme des états distants ou des états séparés. Donc peut-être que le geste qu'on tenterait de faire, ce serait de créer des rapprochements entre des choses qui ont été séparées. Je te regarde, Kata.
Oui, et il y a donc la distance entre des états différents. Et autre chose qui serait séparée, c'est des gens... Des gens qui ont été de par différents besoins, nécessités de survie, déplacés très loin de là où ils sont nés, où ils avaient leur maison, et de distances de ce qu'on appelle, quand on raconte, parfois la faculté, quand on raconte, c'est aussi ces murs qui sont mis entre certains milieux, donc notamment les mondes de l'art qui seraient séparés des autres mondes. Et si on essayait de se rapprocher, et très littéralement, comme tu as vécu en buvant du thé, mais aussi justement avec les gestes et l'intention commune de nous rapprocher par un autre biais, par une autre manière de se rapprocher, qui serait celle de la sensorialité, les affects et les sensations, les affects.
Et ce qui pourrait être peut-être la puissance imaginante, l'activité imaginante. Donc peut-être la facultad, ce serait un autre mot pour désigner nos autres facultés. Qu'est-ce qui se passe? En gros, la question de la faculté, c'est qu'est-ce qui se passe si on met ces autres facultés de sentir et d'imaginer en commun? Qu'est-ce que ça va mettre en circulation entre nous et qu'est-ce que ça va créer comme type de relation entre nous?
Quand j'arrive dans cet espace, il y a donc ce geste d'accueil, le thé, et tout de suite, on rentre dans la proposition par une histoire. C'est une manière aussi de faire le lien un peu avec la pièce, qui est d'être pris par un récit. Et ce récit, et tu dis, je vais vous raconter deux histoires. Et d'ailleurs, tu dis aussi, là, aujourd'hui, c'est ces histoires-là que je raconte, mais on rentre par différents endroits. Et peut-être que tu peux raconter cette histoire, si t'es OK, parce qu'elle me semble intéressante dans...
Oui. Alors, c'est une histoire d'un astronaute qui s'est retrouvé sur le Apollo 14, donc la fusée qui est allée sur la Lune, disons, c'était 69, quelqu'un qui est venu à la faculté nous a confirmé la date. Et... nous, c'est une histoire qu'on nous a racontée, donc on ne connaît pas le fait très précisément, mais maintenant on sait qu'il y a cet astronaute qui est sur l'Apollo 14. Après avoir été sur la Lune, sur les retours, il a un peu de temps. Et il s'est concerté avec un chercheur qui était sur Terre pour que dans ses temps libres, il puisse essayer une expérience. Et cette expérience... elle était faite avec un jeu de cartes, et je crois que ça s'appelle les cartes Gesner. Donc, c'est des cartes qui ont des triangles, des carrés, donc des formes géométriques très simples. Et ils se concertent, ils se mettent d'accord pour tirer une carte au même moment, pour se connecter ou se brancher entre eux, et au même moment, tirer une carte et voir si... et il peut avoir une coïncidence. Et en effet...
en gros, voir s'ils tirent la même carte.
Voir ouais. S'ils peuvent tirer la même carte. Et en effet, apparemment, ils ont tiré plein de fois la même carte. Et c'était une sorte de on rigolait ce matin en disant que les scientifiques, parfois, ils se posent des drôles de questions. Et du coup, la question qui se posait, c'était si... en fait, ces scientifiques, ils savaient... que la télépathie sur Terre fonctionnait et ils voulaient juste prouver qu'elle pouvait aussi fonctionner à la distance Terre-Lune. Donc, comme si elle pouvait peut-être arrêter de fonctionner si on sortait de la Terre. Donc déjà, c'est un supposé très spécifique et ça a été, disons, une preuve de ça, que la télépathie, du coup, elle n'est pas liée, elle ne serait pas liée ni au temps ni à l'espace. Ça, c'est une des histoires qu'on raconte.
Et du coup, c'est une histoire qui crée un dépaysement, enfin en tout cas qui ouvre, qui situe l'endroit dans lequel on rentre, qui est cet appartement, dans lequel vous avez installé des coussins, un peu une machine à thé, etc. Il y a deux pièces sur la droite dans lesquelles on aperçoit des tapis. Donc, on suppose que c'est les salles de classe de la faculté en question. Mais on sent du coup que cette histoire, elle ouvre des possibles quant à ce qui va pouvoir se passer. Ce récit-là nous y invite, en tout cas. Il y a un geste de dépaysement, ouais, je dirais, et d'ouverture. Et je me posais la question de la place de ce type de geste-là dans votre travail. Si c'est un geste habituel, si c'est un geste qui est très spécifique.
Tu veux dire celui du récit ou
alors là, celui du récit associé ce que je nomme un peu d'une manière duale entre ouverture des possibles et dépaysement.
Oui. En fait, c'est comme si... je vais juste revenir sur ce récit parce que le récit, il contient une question... qui est celle qu'on se poserait si on n'est pas scientifique, qui serait en fait qu'est-ce qu'est l'intrigue, hein, qu'est-ce qui fait que on tire ces cartes ou qu'est-ce qui génère cette forme de synchronicité ou de appeler autrement de coïncidence. Et la faculté, ce serait un endroit où on se pose la question de en fait qu'est-ce que c'est que ce sens qui fait ça, qu'est-ce qui génère ça ou, peut-être que le dépaysement, c'est un peu à la manière de ce que dit Vinciane Després aussi. Elle pose des gestes dont elle ne peut pas anticiper les effets. Donc nous, on poserait cette question de qu'est-ce que c'est que ce sixième sens, ou que tous ces sixièmes sens qui ne sont pas encore nommés, dont on ignore à peu près tout, dont on ne peut pas anticiper les effets, mais on créerait les conditions pour qu'ils puissent, d'une manière ou d'une autre, s'activer. Donc ce serait le travail à la facultad consisterait à identifier quelles sont les conditions pour qu'on étudie ensemble cette chose dans laquelle on s'engage et dont on ignore à peu près tout. Je pense souvent, il y a une phrase de cette chorégraphe Alice Chauchat qui dit tu continues à t'engager dans quelque chose que tu ne comprends pas. Et je crois que c'est ça qu'on essaye de faire. On a utilisé beaucoup ce mot de délire. Ou en tout cas, moi, ça... Mais c'est cette chose que tu... Vu qu'on n'est pas scientifique, ou peut-être les scientifiques délirent, en fait. C'est juste qu'ils doivent faire des rapports après. Nous, non, mais... Nous, on doit partager les conditions du délire. Qu'on peut continuer à s'engager dans cette chose qu'on ne comprend pas, mais qui crée des effets d'ouverture ou de dépaysement, de déplacement, en fait, qui génère des puissances, ou de la puissance, qui serait cette puissance imaginante, cette puissance du sentir qui nous met ensemble à des endroits où on n'est jamais. Donc ce qu'on essaye de proposer, c'est cet état un peu liminal comme ça. On va glisser dans... On ne sait pas si on dort, on ne sait pas si on rêve, on ne sait pas si l'autre imagine, on ne sait pas si en fait il est un pseudo-devin. On ne sait pas où on voit, comment on voit. Si peut-être on sait un peu comment maintenant, mais... Je m'embrouille. je ne sais pas si ça répond à ta question.
Ouais.
Mais c'est difficile, je trouve ça très difficile de répondre en termes de qu'est-ce que c'est le geste. Peut-être, du coup, le geste, c'est tenir à cette fiction ou à ce délire. Il faut le tenir, en fait. Il faudrait le tenir ensemble. Donc, il faudrait soutenir les conditions ensemble pour qu'il tienne. Ouais.
Mais je crois que l'histoire, ou ces déplacements, ou dépaysements que l'histoire génère, j'ai l'impression qu'à la facultad, on tient ces lieux, ou on joue à tenir ces lieux où on ne sait pas.
Ouais,
donc, souvent, on nous pose la question, mais attends, c'est vrai? Ça marche? Ce qu'on va faire, ça va marcher? Ou on nous demande, vous croyez à ça? Vous croyez à la télépathie? Et nous, on tient juste l'espace où on dit, on ne sait pas. On veut juste rester ici, où on va continuer à faire sans savoir pour pouvoir être dans un espace de potentialité. Juste, peut-être ça pourrait... Aujourd'hui, il y avait... Et l'inciné qui est venu, et après avoir vécu une expérience où on l'a touché et on lui a raconté un paysage, et il était resté, lui il a écouté ces paysages sur son corps et avec ses oreilles, et en sortant de cet état, il nous dit, mais moi je me pose beaucoup la question de ça serait quoi si on pouvait faire tous confiance à ça, pour lui c'était aussi la liberté, mais il posait la question comme une question, comme il disait, je me pose beaucoup la question, et on se disait, mais justement peut-être c'est parce qu'on peut tenir ici dans cet espace juste les questions, on va pas y répondre, comment faire pour que ta question devienne collective, pour que ta croyance devienne collective, mais on va rester ici à juste poser les questions. Et c'est ça, c'est un geste pour moi, et souvent ça vient, on tient le doute, et sans qu'il soit, sans qu'il mette mal à l'aise, possiblement. Donc comment on peut mettre à l'aise les gens pour rester là, et avec tous les doutes de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on est là, qu'est-ce qui arrive?
Alors oui, peut-être que la question était trop massive par le geste, et puis il s'agit, et la pièce elle était un peu construite comme ça aussi, c'est-à-dire que la pièce elle se pose finalement assez peu la question de savoir ce que c'est qu'un geste ou le geste, elle cherche en revanche les endroits où on les voit fonctionner, et peut-être que ma question était mal posée au sens où il n'y a pas un geste massif et souverain premier, mais il y a plein de petits gestes, et je trouve assez beau là ce que vous nommez « tenir le doute », faire durer ou rendre possible le délire, je sais pas, je trouve que c'est déjà ce sont des gestes en plein et qui demandent à être fait performer dans le réel, et comme le dit Didier Huberman, très réellement, c'est-à-dire qu'ils font très réellement quelque chose, et c'est pas anodin finalement. Cette histoire, elle est pas anodine, il me semble, dans ce qu'elle rend possible ensuite. Mais avant peut-être de revenir à ces questions plus, de réfléchir ensemble, discuter ensemble, est-ce que vous pouvez décrire un peu ce qui se passe dans ces deux petites pièces pour que aussi les auditeurs puissent, et les auditrices puissent se faire une idée et ne...
Ouais, on a commencé à comme concevoir ce qu'on pourrait appeler des sortes de véhicules, c'est-à-dire des formes de d'expérience où on quitterait ce que Catalina a essayé de nommer tout à l'heure, c'est-à-dire c'est d'interroger cette notion de distance, c'est-à-dire comment on se relie à ce qui n'est pas directement manifeste ou directement là. Ça peut être des personnes, ça peut être des lieux, ça peut être des choses qui viennent vers l'espace dans lequel on est, ça peut être aussi des espaces, des lieux, des temps vers lesquels on se déplace. Donc on a commencé à se dire peut-être que ces dispositifs qu'on propose, ces expériences qu'on propose sont des formes de véhicules. Ce que je nommais comme, ok, c'est quoi les conditions pour partir et c'est quoi le type de véhicule, comment on y va. Donc il y en a un qui consiste à proposer à une personne de s'allonger dans une position qui lui est confortable. Et pour le moment, c'est Catalina et moi qui activons ça, mais l'une ou l'autre, on va apposer nos mains, activer différentes modalités de toucher. Hein. Ça peut aller juste de la position presque immobile jusqu'à faire circuler les mains. Les mains vont opérer comme une forme. Elles enquêtent à partir d'un corps qu'on va commencer à imaginer imaginer comme un paysage. On se dit que c'est un espace qu'on arpente, qu'on découvre via le toucher, et qu'au fur et à mesure de cet arpentage, on va essayer de noter vraiment, les images qui apparaissent. Ces images, elles sont, peuvent être constituées de textures, de matières, de couleurs, de formes, même de figures très concrètes des fois, d'architecture, de dynamique, ça peut passer dans quelque chose qui serait plus de l'ordre vraiment pour le coup d'une sorte de fabulation à de la matière plus abstraite. Donc nous, notre tâche, c'est d'essayer au fur et à mesure que ces éléments apparaissent de les nommer et de...
Et il y a une autre personne, oui. Donc le véhicule il est composé à plusieurs personnes, il y a une autre personne qui... on l'appelle le scribe qui note le paysage qu'on est en train de raconter, et donc il y a les véhicules à trois, ou il peut avoir une quatrième personne dépendant de combien de personnes viennent au rendez-vous, qui s'allonge et en se reposant elle laisse que ce paysage qui est raconté lui rentre par les oreilles et se dépose sur son corps. Donc c'est comme tous les participants à ces véhicules aident à faire circuler ces paysages qui viendraient du corps de la personne, d'ailleurs, la personne peut peut-être elle-même inviter un paysage dans son esprit que peut-être il coïncide avec celui qu'on touche, peut-être pas.
On invite quand même à ça. C'est une possibilité pour la personne qui est allongée et touchée. Elle peut, si elle le désire, et au moment où elle le désire, se laisser accompagner par quelqu'un ou par un lieu. Donc là, c'est cette notion d'accompagnement qui est en fait l'objet du véhicule. On va chacun et chacune accompagner l'activité des uns et des autres pour que ce qui serait de l'ordre de l'image et de la sensation se mette à circuler entre nous. Donc je pense... Enfin, moi, je sens que c'est ça qui fait véhicule. C'est pas qu'on touche quelqu'un qui contient quelque chose, c'est qu'il y a un moment où ça se met à se balader entre les êtres qui sont celles et ceux qui sont là, mais peut-être aussi celles et ceux qui sont pas là. Je crois que ça engage cette idée qu'en fait, le corps est vraiment fait de liens. De liens, de lieux qui sont ceux qui sont... dans nos mémoires, mais peut-être aussi, on l'a vu là ensemble avec Marie par exemple hier, il y a quelque chose de ce que Vinciane Després décrit aussi, il y a une ouverture vers la spéculation, c'est peut-être quelque chose qui viendrait après, donc on décrit quelque chose qui est là et pas là à la fois, qui est en toi et peut-être pas seulement...
Et ce qu'on vit, parce qu'après, on peut échanger des rôles, donc ce qu'on vit collectivement, c'est une, au moins depuis quelques jours, c'est une manière très concrète et physique de sentir que la pensée, les images, les corps-images, en fait, ils se transmettent d'un corps à l'autre, et que c'est qui me compose et composé de ce que tu imagines et de ce qu'on a dit avant. Donc, on se sent vraiment dans un corps et tout tissé de vecteurs différents.
Ouais.
Alors, y a quelqu'un qui veut poser une question ?
Juste parce que, contrairement à Jérémy, j'étais pas présente aujourd'hui, et juste pour être sûre de comprendre, cet imaginaire qui circule entre les différents corps se véhicule par une verbalisation parlée.
Ouais. Ouais.
Et du coup, c'est dans la langue de la personne qui est touchée, ou peu importe ça.
Ouais, c'est une très bonne question. Pour le moment, le français est quand même la langue qui rend la communication pour le moment possible. Après, ça, on est en train de se demander. On sait qu'il y a une personne la semaine prochaine qui vient et dont la langue est l'arabe. Donc, on va pouvoir demander à une autre de traduire le paysage qu'on va décrire. Donc, il y a des effets de médiation à penser pour qu'effectivement la langue...
Parfois, on laisse d'autres langues se mêler, mais comme moi, par exemple, j'ai l'espagnol qui vient, je les laisse s'entremêler quand je sais que la personne, elle parle peut-être portugais, donc ça va résonner. Donc, si on a d'autres ressources, ou si la personne parle anglais, donc si on a d'autres ressources, elle se glisse aussi comme partie de cette composition collective où on essaye de communiquer. On laisse, si la personne veut parler dans une autre langue, c'est possible. Et en se disant que la langue, elle peut aussi communiquer même si on ne comprend pas les sens, donc que la sonorité va participer aussi à dire quelque chose d'autre.
Et juste pour construire, à bâtir l'imaginaire quand on n'a pas été présent et que du coup on n'a pas de repère, au niveau de la temporalité de ce dialogue qui circule entre, de nouveau entre différents, les corps et le langage parlé, ça dure sur combien de temps cette session et quelles en sont les différentes spécificités rythmiques ? Est-ce que c'est plutôt lent cette circulation ou elle a différents timings qui...
Ouais, moi je dirais que ça dépend des... C'est presque comme... C'est quoi le rythme de chaque image, sensation ? Mais elle n'est pas censée avoir une teneur rythmique particulière.
Mais la durée, en fait, c'est à peu près... En fait, les gens viennent pour un rendez-vous d'une heure et demie. Et du coup, ensemble, on se sent combien de fois on veut faire, combien de temps on a pour échanger des rôles. Et si, en fait... c'est aussi le temps qu'on tient ensemble. C'est de la concentration et du temps qu'on tient ensemble. Donc, et on sent... Si ça peut durer 10 minutes ou si ça peut durer 40 minutes. Et on s'équilibre, mais comme quand on boit un café et qu'on voit que la personne gigote, on dit bon, on va finir. Mais, tu vois, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement en socialité. Mais juste pour finir avec cette histoire de temps, c'est qu'il n'y a pas seulement ces véhicules, mais il y en a d'autres. Donc ça dépendra aussi si on veut... proposer d'autres véhicules aux gens qui sont là, on va peut-être faire plus court pour pouvoir passer à une autre pratique qu'on pourra vous raconter après.
Et peut-être juste par rapport à cette histoire de... Il y a un geste d'accueil, et puis on boit un thé, et puis il y a deux, trois choses qui sont dites, et puis on glisse dans l'image, et puis de l'image, parfois, on glisse dans une carte de tarot à laquelle on a pensé pendant qu'on faisait ce paysage. Et puis, ce matin, on a eu une espèce de discussion étrange sur l'anarchisme. Donc, c'était comme... Parce qu'il y avait un aigle dans ce paysage et que via l'aigle, on est allé vers cette communauté aérienne qui serait... Pour cette personne, c'était très important d'associer l'aigle à la notion de liberté ou d'autonomie. Et donc, je pense qu'on... On essaye aussi de tenir une conversation qui aurait des teneurs différentes, ouais. Et où le corps et l'image pourraient rentrer
dans l'échange. Peut-être c'est ça.
Une chose qu'on n'a pas dit pour planter le décor, ce qui est assez surprenant, c'est quand on rentre dans cette pièce, on rentre dans une pièce dans laquelle, si par exemple c'était un cabinet de thérapeute, alors on s'imaginerait rentrer dans cette pièce, s'allonger, puis le ou la thérapeute œuvrerait autour, puis on se dirait, bah, tiens, c'est la taille d'un cabinet de thérapeute, mais pas très grand non plus. Et là, ce qui était marrant, c'est qu'on a commencé à rentrer, on était deux, donc à être invités à rentrer, Catalina nous a rejoints, il y avait donc Roberto qui vous accompagne, qui est rentré à son tour, puis Adama est arrivé, Myriam aussi, on s'est retrouvés assis dans cette toute, toute petite pièce, et c'était assez joyeux parce qu'en fait, il y avait très largement la place pour tout ce monde-là, il y a peut-être même d'autres personnes auraient pu encore s'inviter, et on était, il y a quelque chose d'assez... le terme qui me vient, c'est détendu, oui, mais c'était pas que ça, mais j'ai pas le bon terme qui me vient. On est chacun aussi, on est proposé à un endroit, une place, et on n'a pas grand chose à faire, mais par contre, de cette place, il y a des choses qui peuvent se passer. Voilà, et ça, c'est. J'ai trouvé que c'était. C'est aussi une manière de faire. Alors, communauté, ce sera un mot beaucoup trop gros, mais il y a un petit collectif qui se trame parce qu'on est dans ces petits murs. On a chacun un truc à, non pas à faire, mais à laisser se passer.
Et quand même à soutenir.
Et à soutenir. Je pense.
Ouais. C'était un peu cette idée, parce que ça fait très très longtemps que Catalina et moi on travaille, mais dans cette idée qu'en fait ce qui danse, c'est le type de relation qui va se nouer entre nous et les personnes qui viennent partager les expériences qu'on propose. Donc il n'y a plus de scène, il n'y a plus de plateau, il n'y a plus de. Mais. Ça fait très longtemps qu'on travaille dans un format de 1 à 1. Et où la question, tu vois, du glissement vers une forme, oui, on pourrait dire de soins ou du thérapeutique ou même du transfert des fois, où tout ça peut se jouer là, dans le binôme. Et là, l'enjeu, c'était attends, comment on fait pour ouvrir, en fait. Si c'est une forme de conversation, même avec des choses qui sont extrêmement chargées.
Et intimes aussi.
Et très intimes. Mmh. Ça peut être un morceau de rêve, ça peut être une personne plus là parce qu'elle est décédée, ça peut être... la faculté, c'était quand même un lieu ouvert à des personnes en situation de migration et d'exil. Donc les charges qui sont contenues dans les corps sont assez particulières. Et y a un commun, c'est pas communauté, mais il y a un commun vraiment improbable qu'on n'arrive pas encore bien à, je sais pas, à définir. Mais il y a quelque chose dans le fait qu'en fait ça tourne entre nous, que ça presque enquête des fois entre nous via des choses qui, oui, qui ont une teneur intime, émotionnelle, quand même très intense parfois. Mais ça sort. Du 1 à 1, ça sort du 1. C'est pas 1, quoi. Mmh. Ça excède quelque chose. Je sais pas ce que c'est, mais c'est... Même le corps, quand ça prend, quand les véhicules prennent, c'est plus juste ton corps. Mmh. Et je pense que c'est ça que ça cherche, ces circulations-là. Qu'on s'excède un peu.
et ça crée une sorte de collectivisation des problèmes, mais des problèmes comme des problématiques. Donc, ça, c'est un autre geste de proposer à quelqu'un de partager ça un à un. Donc, je les porte un peu pour toi et on voit comment on l'articule et on les fait bouger et les transformer. Là, c'est comme si on. Quand je viens et que j'ai un. Quand quelqu'un arrive avec un rêve et dit. C'est comme s'il posait les rêves pour tout le monde. Parce que c'est pas. Je te l'ai dit à toi, possible thérapeute. Mais c'est, hé hey, les gars, j'ai un rêve. Donc c'est un commun où on peut porter les rêves, les soucis aussi avec lesquels on vient.
En faisant la sieste.
Mais en faisant la sieste. Et là, parce qu'on sait qu'on ne va pas juste dire non, mais ça va. Donc on les pose ailleurs, on les travaille ailleurs. Et tu ne sais pas comment ça va être travaillé par la machine qu'on fera aujourd'hui. Mais tu peux la poser et les gens. Se sentent suffisamment à l'aise pour les poser comme ça. Et je pense que c'est là où c'est un commun improbable, c'est qu'entre personnes qui ne se connaissent presque pas, on va quand même se retrouver à parler de ton rêve ou ta peur que quelqu'un meure. Et puis, on va parler de... il faut écrire la lettre à la préfecture. Puis de et la carte du tarot, de tel... Tu vois, donc ça, c'est comme si ça, c'est... c'est un collage. Ça, c'est des choses qui ne sont pas vraiment mises en commun, mais elles se mettent les unes à côté des autres et ça crée un sens commun qu'on partage et qui flotte.
Non, je pense à collage, parce que moi, ça me fait, c'est peut-être du glissement. C'est plus comme si ça glissait. Et les moments où c'est foireux total, c'est qu'en fait, les glissements sont empêchés. Et je crois parce qu'on s'attend les uns les autres à un certain endroit. On peut plus, il n'y a plus rien qui excède. Et on doit être soit la sorcière, soit l'artiste, soit. En fait, il y a une chose qui va exclure une autre. Et aussi parce que les charges avec lesquelles les personnes elles viennent sont tellement protégées, et pour des très bonnes raisons, qu'en fait, c'est la méfiance qui... La méfiance, la peur, la protection, enfin, tout ça qui fait qu'il n'est pas question de glisser dans un endroit où on tiendrait une situation où on ne comprend pas ce qu'on fait, mais on observe ce que ça fait. Et je pense que c'est beaucoup demandé, en fait. C'est de rester à l'endroit d'un inconnu ensemble, c'est beaucoup demandé. Donc des fois, c'est pas possible. Et ça va aussi, en fait. Et il y a eu plein de moments, je sais pas, je dis foireux, c'est juste que ça bouge plus. Et c'est vraiment comme un... Ouais, ça bouge plus, quoi. Et ça dure 5 minutes, et il faut arrêter. Et ça va aussi, en fait. Enfin, ça va aussi, c'est dur, hein. Mais
l'espace, pour l'instant, accueille aussi ça, que ça peut arriver.
Ouais, donc que la danse puisse aussi se trouver dans cet espace de circulation, de traduction, d'emmêlement, dans un qui est plus le face-à-face des corps figés dans des identités un peu attendues, mais pourquoi pas dans l'imaginaire, lui-même emmêlé à de la sensorialité, lui-même.
C'est ça qui danse, je crois. Ouais. Ouais.
Et si Vinciane, elle le dit dans sa pièce, elle dit un geste, au fond, ce qui importe, c'est que c'est un art des conséquences. Et à ça, il faut ajouter autre chose, qui est qu'un geste n'est jamais programmatique, c'est-à-dire qu'il est ouvert. Et tout à l'heure, j'étais sur détendu, et le mot en fait, que je cherchais, il n'est pas tellement plus noble, hein, c'était relâché. Mais au sens, je m'explique, je trouve qu'il y a quelque chose de relâché dans les attentes de ce que pourrait produire ce moment. Et par relâcher, je veux dire qu'il y a quelque chose d'ouvert. Le geste, il est ouvert au sens où il n'y a pas d'attendu sur ce qu'il va produire. Et il a la confiance dans le fait que quelque chose pourrait. Se passera, pourrait, peut-être pas. Et alors vous reviendrez pas. Mais j'aimerais ouvrir un autre chapitre, si vous voulez bien, pour revenir à cette question du geste et de son écologie. Alors, de ce que vous faites, si on ne parle pas de geste, je pense que une de mes partitions un peu secrètes avec cette pièce, avec le fait de la faire écouter, y compris dans ce contexte au Pacifique, c'est aussi d'ouvrir un endroit de dialogue où le champ chorégraphique rencontre les sciences sociales, qui est plutôt mon champ d'origine. Et alors je me demandais si dans cette écologie de ce que vous faites, ou de votre geste, ou de vos gestes, vous aviez comme ça des références qui avait été un peu féconde ou importante, originelle, et peut-être que c'est pas dans le champ des sciences sociales, peut-être que c'est dans les arts plastiques, non, je sais pas, mais s'il y a quelque chose comme ça que vous avez envie de nommer, une rencontre ou un déclic particulier.
Oui, enfin, il y en a pas mal là auxquels je pense, peut-être deux en particulier, mais Kata, tu... C'est parce que ça fait longtemps que, et aussi avec la pandémie, c'est un travail qui ne cesse d'avoir été reporté. C'est surréaliste de pouvoir le faire. En fait, tout à coup, tu dis, oh, on touche des gens toute la journée. Tu vois, c'est fou. Donc, il y a eu tout ce moment où on ne pouvait plus le faire, pas le faire. Et peut-être que la lecture, la recherche, la conversation, les rencontres ont gardé toute cette histoire un peu vivante pour nous. Ça a commencé en 2017 et l'intuition c'était justement d'aller à la rencontre de personnes qui étaient déjà occupées à accompagner, à écouter, à créer ces conditions de confiance et de soutien avec des personnes en situation d'exil. Et on a passé pas mal de temps au centre de soins Primo Levi, qui est un centre de soins qui travaille avec des personnes qui ont été victimes de situations de torture en l'occurrence. Et on s'est rapproché de Voilà, il y avait des psychanalystes, des médecins, c'est que des thérapeutes, notamment une médecin qu'on a beaucoup, avec laquelle on a beaucoup discuté. Alors, c'est des références, ce ne sont pas des références théoriques, mais là, c'était une praticienne du soin. Et moi, j'ai pensé à elle en écoutant Vinciane Després, parce qu'elle disait que 80% de son geste de soin consistait à écouter. Avant, elle est médecin, généraliste, et elle a été formée à soigner, donc à faire quelque chose pour que la douleur et que les symptômes s'en aillent. Et en fait, ce qu'elle faisait, c'était écouter. Et ça me reste très fort. On a très envie d'aller lui parler de nouveau, parce que, en fait, c'est quoi cette écoute parce que nous, on doit mettre en place des... Je pense, hein, une machinerie d'écoute assez augmentée aussi et qui se réajuste en continu. Je pense que si on veut continuer ce travail, il va falloir qu'on soit aussi soutenu par des personnes qui ont des pratiques d'écoute, en fait. Donc, je pensais à ça. Et puis, ouais.
Quoi ?
Non, vas-y. Ouais. Peut-être.
Je te regarde pour arrêter de parler.
Parce que j'hésite à ramener ça. Mais parce qu'on a du mal à partager. Non, je vais. On s'obsède et on sent que c'est un accompagnement un peu étrange pour la faculté. Et c'est pour ça que c'est difficile encore à l'articuler dans notre argumentaire théorique. Ou disons, mais c'est un accompagnement qui est là. Et c'est un philosophe américain noir qui s'appelle Fred Moten et qui est dans les champs des études de Black Studies. Donc, les études, ça ne traduit pas, non oui. Et, merci. Et je dis étrange parce qu'en fait, c'est tout à fait... sa pensée est tout à fait là où ça nous intéresse de trouver ces moi ou ces sujets ou ces corps qui ne serait pas du tout individualisé ou contenu en soi, souverain, et qui justement c'est vie comme liée aux autres et entremêlée aux autres, et que ça part aussi de... C'est pas seulement joyeux d'être entremêlé aux autres, c'est aussi une souffrance. Ça veut dire que tu peux perdre. Que si tu perds quelqu'un, tu perds une partie de toi, littéralement. Donc c'est pas seulement joyeux, mais c'est cette pensée où le un ne tient pas. Et c'est une critique, une énorme critique à la pensée cartésienne, occidentale, très européenne, d'une certaine lignée de la pensée européenne qui est celle qui tient place énormément et qui, pour laquelle on a encore des conséquences énormes sur comment on se traite les uns aux autres. Et du coup, je pense que quand on a passé autant de temps justement à obséder à cette notion de comment vraiment on continue à pratiquer, à se rappeler constamment qu'on n'est pas un, parce que c'est une pratique, c'est une façon d'être ensemble et de se rappeler que je suis toujours liée aux autres et que ça a des conséquences. Donc ce n'est pas une question moraliste des responsabilités, mais c'est une question des responsabilités dans le sens où on se répond les uns aux autres, et on doit se tenir et on doit se ressentir, on doit se sentir les uns aux autres constamment. Mais c'est compliqué pour nous de l'amener, parce que sa philosophie est extrêmement complexe, donc on sent toujours que de toute façon, on prend les petits bouts qu'on peut mâcher, qu'il y en a plein d'autres qu'on n'arrive même pas à mâcher. Et parce qu'il y a quand même cette teneur de qu'est-ce qu'on peut faire les blancs avec les Black Studies, qui est toujours un petit peu cette histoire d'appropriation ou machin. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment quelque chose, si on veut être comme... S'il y a quelque chose qu'on mange, on mâche énormément pour nous poser la question de ce qu'on voudrait que les pratiques nous fassent, nous déjà, et les autres peut-être aussi, c'est avec Fred Moten.
Ce que j'ai envie de relever, une chose que j'ai entendue, parce que ça, ce serait un élément de réponse, en tout cas parmi plein d'autres, à la question que je posais des sites de rencontres là, entre les sciences sociales et le champ chorégraphique, c'est que cette question-là, c'est pas une question théorique, elle relève d'une pratique. Et je crois que, par exemple, c'est quelque chose que les sciences sociales découvrent. Enfin, non, découvrir, ce serait trop dire, mais se réapproprie le fait qu'elles peuvent aussi être au départ de pratiques par rapport à des questions comme ça, et que c'est précisément ça que, il me semble, que savent faire les artistes qui œuvrent dans le champ chorégraphique et dans d'autres champs aussi. J'aurais d'autres questions à vous poser, mais j'ai envie de me tourner un tout petit peu, savoir si derrière moi, il y avait quelqu'un qui avait envie de poser une question, de réagir. Non ? Oui ?
Bonjour.
Bonjour.
Ça donne très envie d'expérimenter. Et je voudrais savoir quel est le deuxième véhicule.
Ah, le deuxième véhicule. Ah, oui. Tu veux décrire la danse des mains ?
Ouais. C'est difficile à décrire ça comme ça. C'est un binôme. Il y a deux binômes. Il y a un véhicule qui est une balade, mais qui est une pratique qui dure maintenant depuis plus de 10 ans. Qui est une balade pour une personne les yeux fermés, où le toucher va guider pendant un certain temps dans la ville, et où le guide va proposer à la personne aux yeux fermés d'ouvrir les yeux le temps d'un flash sur des images que là où le guide décide de montrer tout au long du parcours. Donc c'est, je crois, un travail beaucoup sur la... Oui, oh. Et puis on a une autre. Quand on commence à parler après, tu sais, il y a trop de phrases. Il y en a une autre qui est une danse des mains, mais je vais laisser Catalina décrire parce que je crois que je vais.
Oui, l'exercice consiste à se mettre l'un face à l'autre, donc on se met à deux, et je te propose de m'aider à envoyer une danse pour quelqu'un qui n'est pas ici. Donc moi, je vais faire un cadeau, une danse cadeau avec mes mains. Je vais me laisser le temps que je veux pour laisser venir cette danse. Ça peut être un message très clair que je sais que je veux t'envoyer, ou je peux le découvrir en dansant. Et toi, avec tes yeux et par ton regard, tu vas l'envoyer à la personne qui n'est pas ici. Donc c'est un peu comme si toi, tu étais le messager de la poste ou quelque chose de cet ordre. Donc avant de commencer à danser, je vais te dire les noms de la personne et où se trouve la personne, géographiquement, si je le sais, sinon seulement les noms de la personne. Et je vais prendre le temps de faire cette danse cadeau. Et quand c'est fini, pour amplifier ces messages, tu vas me raconter ce que tu as vu. Et là, encore une fois, ça peut être dans la langue qui te vient, parce que peut-être ça suffit qu'elle soit dite, je ne dois pas forcément comprendre tout. Et tu décris ce que tu as vu avec tout ce que voir peut être. Donc ce que tu as imaginé, ce que tu as senti, ressenti. Et oui, je pense que c'est les trois véhicules qui se sont un peu stabilisés dans la dernière semaine.
Oui, il y en avait un qui était autour du son, mais qui est encore très brouillon. Peut-être que ce à quoi on est aussi occupé, c'est de voir, il y a des pratiques telles que cette balade que je viens de décrire, qui en fait n'était pas du tout quelque chose qui était... ça fait 10 ans, quoi, donc ça fait longtemps. C'est comment ça rentre dans les questions de la facultan. Il y a des pratiques qui sont en train d'émerger liées vraiment au travail qu'on fait, et il y a des choses qui se réajustent en permanence en fonction des personnes avec lesquelles on les fait. Donc c'est pas comme si on avait un kit établi. Ça fait 2 semaines là qu'on réajuste presque tous les jours pour se dire ok, en fait, comment ça marche. Voilà. Est-ce que ça répond un peu ? Ouais.
Ça fait 2 semaines et il restera
une semaine encore. Ouais.
Donc, ouais. Ce sera malheureusement l'émission sera diffusée après la semaine, je pense. Donc, je ne sais pas s'il sera possible de s'inscrire ou pas, mais si...
Non. De toute façon, on est assez plein.
De toute manière, vous êtes assez plein.
Même si c'est après. Donc, même si c'était avant.
Oui, mais par contre, on va comme s'installer pour un temps long à, au Centre d'art Béton Salon à Paris. Donc vous pourrez, ouais, je sais, c'est 3 heures de train. C'est pas...
Et alors, si vous n'avez pas la possibilité de venir à Grenoble, j'espère que vous croiserez la route de la Facultad ailleurs. On n'a d'ailleurs pas discuté de ce joli nom, la Facultad. Vous nous avez renvoyé vers les facultés, ces autres facultés, mais ça renvoie aussi à la faculté, ces beaux endroits que sont les universités. Si vous croisez la Facultad, vous verrez que c'est pas tellement un endroit avec des amphis dans lesquels on s'assied passivement à écouter un message qui va d'un cerveau A à un cerveau B. Ça ressemble plutôt à une sorte de laboratoire un peu alchimique où, qui n'est pas le lieu où on apprend des choses fixes sur un monde qui serait donné. De toute façon, je crois qu'il faut qu'on arrête de raisonner à monde constant. Hein. S'il y a bien une chose que l'époque nous apprend, c'est que cette constante-là, on ne peut plus y tenir. Mais c'est plutôt un endroit où on apprend à expérimenter comment est-ce que très délicatement les contours de ce monde, d'autres mondes peut-être peuvent comme ça évoluer, se mettre à baver, se mettre à circuler. Je vous remercie pour cette discussion. On rend l'antenne, nous étions au Pacifique pour une écoute de la pièce Geste de Jérémy Damian et Julien Vadet en discussion avec Myriam Lefkowitz et Catalina Insignares pour leur travail, leur pièce, leur... en l'air, la Facultad. Merci.